Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Un coup de force diplomatique des pays de l'OPEP, des marchés qui paniquent et une grave secousse pour l'Occident. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le choc pétrolier de 1973, entre pénurie et chômage, la fin d'une époque.
Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Et cela seul suffira à diminuer notre consommation et par là même à parer à quelques difficultés d'importation et aussi à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur.
Le président français Georges Pompidou, 20 décembre 1973. Comme partout en Occident, le réveil est brutal. Les pays riches carburent au pétrole depuis longtemps et profitent largement des ressources énergétiques bon marché. Or, durant l'automne, en pleine guerre du Kippour, les pays arabes ferment le robinet. L'or noir devient une arme de persuasion massive. Le prix du baril atteint des sommets. Les consommateurs paniquent et avec eux, la planète économique. Le chômage grimpe en flèche, le coût de la vie explose. Ainsi s'achève la période de prospérité d'après-guerre.
Il faudrait bien que le gouvernement essaierait de trouver une entente quelque part.
Vous venez au libre-service, est-ce que c'est parce que ça coûte moins cher?
Ah, bien, c'est parce que ça coûte moins cher, il faut économiser, parce que nous, dans notre ligne, dans le laitier comme je suis, on n'a pas remonté nos produits, on les a même baissés d'un sou le pain, et puis on est obligé de payer plus cher de l'essence.
S'ils pouvaient trouver des puits par ici, là, dans le Canada, ça serait beaucoup mieux pour tous les Montréalais, pour toute la province de Québec, pour tous les Canadiens. Parce que franchement, on est obligé de payer l'importation, puis ils en profitent.
Ça n'a pas d'allure quand même.
Vous avez une assez grosse voiture, ça doit consommer pas mal d'essence, ça.
Écoute, après, je voyage pas trop, 15-20 pièces par semaine, là, juste pour aller travailler.
Vous ne trouvez pas ça un peu difficile?
Non, je peux le faire. Là.
Oui.
Ça me coûtait bien moins cher que ça avant, par exemple. Là, ça... Fait que je change de char.
Si le prix continue à monter, il va falloir tous acheter des petites voitures comme moi.
Vous trouvez ça?
Les voitures vont effectivement diminuer de volume après coup avec l'arrivée, entre autres, des Japonaises. Micro-trottoir aux nouvelles télévisées le 27 décembre 1973. Des automobilistes dans une station-service. Désolé, plus d'essence. Sorry, out of gas. La formule est devenue célèbre aux États-Unis et elle résume le choc pétrolier de 1973. Mon invité pour en parler, Samir Saul. Il est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, spécialiste, entre autres, du monde arabe. Bonjour.
Bonjour.
On dit choc pétrolier quand on parle des événements de 1973. Il y aura plus tard un deuxième choc en 1979 avec l'arrêt des exportations iraniennes. Mais est-ce que la crise pétrolière n'a pas débuté avant, bien avant 1973?
Tout à fait, tout à fait. La crise apparaît en 1973, c'était un réveil brutal pour les pays occidentaux, les pays industrialisés. Mais en réalité, le problème fait remonter depuis longtemps, depuis au moins les années 60, deux situations parallèles s'aggravaient. D'abord, la situation pétrolière n'était pas aussi stable qu'on le pensait. Et ensuite, il y avait la situation monétaire, l'affaiblissement du dollar. La situation pétrolière était compliquée par le fait que le pétrole était contrôlé par un cartel de grandes entreprises, ce qu'on appelait les sept sœurs, les majors, les major companies, faisaient la loi dans ce domaine et laissaient très peu de choses aux pays exportateurs, aux pays producteurs. Alors, il y a une tension très forte qui se développe entre les sociétés et les pays producteurs pour davantage de revenus, un meilleur partage des redevances, une participation dans les grandes sociétés par les États producteurs. Et donc ça tire à U et à DIA pendant les années 60 et jusqu'au début des années 70. Donc sur ce plan-là, la crise pétrolière est en soi pétrolière. Mmh. Il y a une augmentation de la production parce que c'est très rentable. Le pétrole est très rentable durant les années 50-60. C'est une denrée qui rapporte beaucoup aux entreprises. Alors, ça veut dire que plus c'est rentable, plus on produit, et on finit par avoir une situation de surproduction durant les années 60. La surproduction finit par baisser les prix, ce qui naturellement mécontente et les sociétés et les pays exportateurs. Oui. Donc il y a demande de la part des pays exportateurs que leurs revenus augmentent, que les prix soient relevés depuis les années 60. C'est l'une des raisons de la formation de l'OPEP en 1960.
Tout à fait, c'est ça. Il y a une frustration des pays arabes, des pays du Golfe, entre autres, hein, qui exportent le pétrole.
Exactement. Et ils forment donc l'OPEP pour tenir tête au cartel des grandes entreprises, pour essayer de les obliger à relever les prix et à augmenter les redevances aux pays exportateurs. Donc, il y a déjà une crise pétrolière. Il y a à côté la crise du dollar. Donc, on parle moins de cela parce que le pétrole est tarifé en dollars. On achète du pétrole dans le monde en dollars. Le dollar est en train de perdre de sa valeur durant les années 60 à cause de l'inflation, à cause des dépenses très élevées des États-Unis pour la guerre au Vietnam, de sorte que le dollar est en train d'être dévalué et les pays exportateurs sont payés alors en dollars dévalués. Ce qui veut dire qu'ils ont une raison de plus pour demander un relèvement des prix parce que leurs revenus sont affaiblis par le fait que le dollar vaut moins qu'auparavant. Donc, leur objectif est d'enrayer la dégradation de leurs revenus, de ce que le pétrole leur apporte. Donc, tout ça est déjà en cours à la fin des années 60. Il s'aggrave au début des années 70, lorsque le système de Bretton Woods est abandonné en 1971 par Nixon, ce qui veut dire que le dollar est détaché de l'or, il flotte, et les États-Unis alors se donnent toute liberté à imprimer des dollars.
Oui, et là, c'est tout le système monétaire mondial qui est chamboulé à ce moment-là, à partir de 71.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le désordre financier, le désordre monétaire, avec une avalanche de dollars imprimés par les États-Unis qui font baisser encore plus la valeur du dollar et augmenter l'inflation. Alors, vous comprenez, les pays pétroliers sont dans une situation difficile et ils exigent, entre 71 et 73, un relèvement de leurs revenus à cause de cette double situation. Baisse des prix pétroliers et paiement en dollars dévalué.
Oui.
Donc la crise est déjà en place.
Oui, et c'est comme si c'était une spirale. En même temps, pourquoi les pays de l'OPEP décident soudainement, à l'automne 73, de fermer comme ça le robinet du pétrole?
Parce que c'est une bonne occasion. En 73, il y a une guerre au Moyen-Orient entre Israël et les pays arabes, Égypte et Syrie en particulier. Or, c'est le moment donc de manifester à la fois son nationalisme et ses exigences pétrolières et financières. Donc, les États-Unis appuient Israël à fond. Ils lui remplacent ses pertes militaires par un pont aérien qui choque le monde arabe et donne donc l'occasion aux pays pétroliers d'affirmer leur volonté de, à la fois de défendre les autres pays arabes et d'exiger une hausse des prix ou d'obtenir une hausse des prix en augmentant les prix eux-mêmes et alors faire en 73 ce qu'ils cherchaient à faire entre 71 et 73 de toute façon.
Ah oui, mais là, l'occasion, elle est belle. Il y a cette, comme vous dites, la guerre du Kippour. Donc, c'est comme si le pétrole devient une arme de persuasion massive. Le pétrole est une arme à ce moment-là.
Absolument. C'est ouvertement affiché, l'utiliser le pétrole comme une arme dans la guerre contre Israël et dans l'objectif de punir ceux qui l'appuient. Alors, c'était essentiellement les États-Unis, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, le Portugal, qui était un point de passage des armes américaines vers Israël. Donc c'est à la fois une situation politique et économique en même temps, les deux en même temps.
Oui, tout à fait. Et là, le prix du baril, les conséquences se font sentir rapidement parce que le prix du baril de pétrole est multiplié par 4. Les conséquences sont immédiates en Occident et pas que dans les stations d'essence. On va l'entendre ici, un résumé. Pierre Nadeau, à notre télévision, là, on est en début janvier 1974.
D'abord l'essentiel, le chauffage, là où les effets sont les plus évidents, les augmentations les plus douloureuses. Depuis 5 mois, le prix de l'huile légère numéro 2 pour le chauffage central est passé de 25 à 35 cents le gallon. Elle était à 19 cents il y a 2 ans. Répercussions prévisibles, les loyers vont augmenter. On s'attend à ce que les locataires paient au renouvellement de leur bail de 10 à 20% de plus pour se loger. Dans les quartiers défavorisés, on a déjà commencé à payer la note. L'huile dite à poêle se vend maintenant 2 fois plus cher qu'au mois d'août. L'augmentation du prix de l'essence n'est pas aussi grande qu'on peut le croire, comme si on voulait ménager l'industrie automobile. Ainsi, le super et l'ordinaire ne se vendent aujourd'hui que 5 cents de plus qu'en août dernier. Mais attention, le plus dur s'en vient. Un détaillant nous a annoncé qu'il nous faudra probablement payer 1 dollar le gallon en fin février, début mars. Qu'on se le dise, il est horriblement dangereux de stocker de l'essence. En explosant, un gallon d'essence cause autant de dommages que 14 bâtons de dynamite. Pour clore ce chapitre, signalons qu'on ne trouve plus d'appareils de chauffage électrique dans le commerce. Les ventes ont plus que doublé. On ne suffit plus à la demande.
Pierre Nadeau, 1974. Alors, la mise en garde contre les risques d'explosion peut faire sourire, mais c'est vrai qu'à certains endroits, on avait tendance à faire des réserves, comme ça, réserves d'essence, de pétrole. Devant une telle situation, donc, les pays producteurs, pays arabes, pays du Golfe, qui décident d'une part de hausser le prix du baril, de fermer le robinet, on diminue la production. Comment réagissent les gouvernements occidentaux à ce moment-là?
Très négativement, parce qu'ils sentent bien que ça va toucher leur économie. Ça va toucher leur population et on sent bien l'émoi, la détresse chez les particuliers qui subissent cette hausse d'une manière très directe et brutale. Donc les gouvernements occidentaux essaient de tempérer avec les pays producteurs et ils finissent en 1974 par former une agence internationale de l'énergie, ce qu'on appelle l'AIE. Une sorte de réunion des pays consommateurs pour tenir tête aux pays producteurs. Bon, plus ou moins, c'est une combinaison de facteurs politiques et de facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, mais c'est une tentative de parer au plus pressé. Oui. Le fait qu'il y a une pénurie, l'hiver s'approche et les économies occidentales qui sont déjà en début de crise vont subir un autre coup au pire moment, au moment justement où la crise s'approfondit. Parce qu'il faut comprendre que la crise économique dans les pays occidentaux n'est pas due au choc pétrolier. Elle a commencé avant. Elle a commencé à la fin des années 60. C'est le début donc, de l'essoufflement des 30 glorieuses, de la période de prospérité. Et le choc pétrolier arrive donc à un bien mauvais moment, moment où ces économies sont déjà titubantes, vacillantes.
Oui. Et donc, le pétrolier va sans doute l'amplifier. On y reviendra justement à la fin des 30 glorieuses, mais on sent en tout cas rapidement que la crise, elle devient politique. Un exemple ici, c'est le ministre saoudien de l'énergie, Ahmed Zaki Yamani, au micro de l'Associated Press à Copenhague, sommet justement à Copenhague, le 22 novembre 1973. On écoute le ministre.
I think what we have as an oil weapon is far more greater than what we did. What we did is nothing at all.
Je pense que ce que nous avons comme arme pétrolière est bien plus grand que ce que nous avons fait jusqu'ici. Ce que nous avons fait n'est rien du tout. Je pense qu'au lieu de réduire la production de 20 ou 25 on pourrait aller jusqu'à 80 %Vous pensez que l'Europe, le Japon et les États-Unis pourraient survivre à ça?
You think Europe or Japan or the United States can survive with this? Maybe the United States they have their own local supply.
Peut-être que les États-Unis y arriveraient avec leur propre approvisionnement local. Ils sont dans une bien meilleure position que l'Europe et le Japon. Mais je ne sais pas dans quelle mesure l'Europe et le Japon se réuniraient et rejoindraient les Américains dans leurs actions, car toute leur économie s'effondrerait définitivement d'un seul coup. Les Américains pourraient songer à une action militaire, c'est aussi une autre possibilité. Mais alors, ce serait un suicide.
This is also another possibility, but then this is a suicide.
On entend ici dans le ton, les pays du Golfe sont convaincus qu'ils ont enfin le gros bout du bâton. Il évoque même, il dit la possibilité que l'armée américaine intervienne, ce serait un suicide. Est-ce que ça s'est avéré une possibilité? Est-ce qu'on y a pensé à ça ou pas du tout?
On en parlait.
Oui.
Et on peut dire que les idées éditorialistes poussaient dans ce sens-là. Mais évidemment, c'est très dangereux, c'est très risqué parce que les champs peuvent être incendiés assez facilement. Le ton du ministre est très indicatif du fait que, pour la première fois, les pays producteurs avaient le gros bout du bâton.
Mmh, oui.
C'est pour la première fois. Ils sont habitués à subir le diktat des grandes entreprises, des SAT majeures, des multinationales pétrolières. Et c'est la première fois où ils sont en position de force. Donc, il triomphe, on le sent bien. Oui. C'est l'occasion pour lui de dire que cette fois-ci, on a les moyens d'obtenir ce qu'on veut.
Oui, hein, oh, les rôles sont inversés, là, pour une fois dans l'histoire. Et nous avons désormais le gros bout du bâton. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, hein, cette crise, elle va servir de catalyseur pour l'Occident, parce que là, les pays riches s'aperçoivent qu'ils sont, d'une part, beaucoup trop dépendants du pétrole, et beaucoup trop dépendants également des pays de l'OPEP. Alors, comment va réagir le monde industrialisé à ce moment-là?
Ben, la réaction ne sera pas immédiate, mais elle sera mise en place pour une réorientation de l'approvisionnement pétrolier. Le Moyen-Orient va toujours compter, c'est là où les réserves, enfin, l'essentiel des réserves mondiales se trouve, mais on va commencer à chercher du pétrole ailleurs. Et il faut comprendre que dans l'industrie pétrolière, il n'y a pas de manque physique de pétrole. Le pétrole est disponible sur Terre, mais le prix de production peut être élevé. Et lorsque le prix du pétrole augmente, alors on a un stimulant, on a une raison de faire des explorations qui coûtent cher et de chercher donc du pétrole plus cher que celui du Moyen-Orient.
Oui.
Et le pétrole du Moyen-Orient ayant eu son prix relevé à cause du choc pétrolier, c'était donc une bonne raison pour aller chercher du pétrole ailleurs, du pétrole en haute mer, donc le pétrole offshore, par exemple en mer du Nord, près de la Grande-Bretagne. C'est là où beaucoup de puits ont été forains. C'est un pétrole cher, mais qui était rentable dans les conditions de pétrole cher dans le monde.
Oui.
Si le prix du pétrole baissait, évidemment, le pétrole offshore serait trop coûteux. Alors, il y a une réorientation vers donc, le pétrole de la mer du Nord, vers l'Alaska, vers le Mexique, vers les sables bitumineux du Canada. Faut pas oublier, c'est à ce moment-là qu'on commence à les exploiter. C'est un pétrole cher et polluant. Mais il était rentable à ce moment-là.
Oui.
Donc il y a une réorientation vers un autre type, d'autres sources de pétrole que le Moyen-Orient.
On l'entendait dans le Vox Pop, hein, une dame qui disait si on avait du pétrole ici, ben oui, effectivement, il y en aura beaucoup en Alberta. Mais vous l'avez dit, il coûte cher à exploiter, mais ça va devenir rentable. En prise de conscience aussi, bon, sur la dépendance, on le disait, la dépendance envers les pays de l'OPEP, mais c'est aussi une prise de conscience, j'ai l'impression, du monde occidental hein, sur le gaspillage. Peut-être que le pétrole, on le gaspillait, il faudrait être conscient de tout ça. Peut-être qu'il faut trouver des solutions alternatives. En deux exemples bien concrets ici, le premier au micro de Gilles Goujon en 1973, c'est chez nous. Et le deuxième, c'est une pub télé qui est devenue célèbre en France. On écoute.
Ah ben, je crois qu'on va aller moins souvent dans le Nord et puis on va se limiter à 50 000 à l'heure. C'est le moyen. Si on fait de la grosse vitesse, mais là, ça coûte cher, puis c'est rendu que ça coûte excessivement cher, la gazoline, fait que faut prendre des moyens.
C'est compliqué pas mal notre affaire, parce que disons que pour l'essence, je suis justement dans le transport.
Oui.
Fait que dans le lavage de camions, ces choses-là, on a des camions sur le chemin. C'est un problème pour nous autres.
Mais qu'est-ce que personnellement vous pensez faire, vous?
Ben, on va essayer, quoi, de sortir le moins possible le dimanche, les fins de semaine, ces choses-là. Privé de l'automobile.
Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
Et les idées, ben, ça passe justement par l'efficacité énergétique. On l'entendait dans le micro-trottoir aussi, ben, peut-être lever le pied, hein, rouler moins vite. Donc, en ce sens, cette crise-là demeure étonnamment actuelle quand on parle de solutions alternatives et de lutter contre le gaspillage.
Tout à fait. On va plus loin. Disons qu'avec la crise de 73-74, on a parlé beaucoup de conservation. Conserver pour éviter les dépenses inutiles. On est passé à des grandes voitures, des grandes bagnoles énergivores, à des compacts.
Oui.
Les compacts existaient auparavant, mais elles vont devenir de plus en plus répandues à cause de la crise pétrolière. Alors, la crise que nous connaissons maintenant, ou ce que nous connaissons maintenant, c'est une sorte de pas en avant dans le sens de la restriction des énergies fossiles. On en veut de moins en moins, pour des raisons environnementales maintenant. Mais ça va un peu dans la même direction. Le pétrole était trop envahissant, trop dominant. Et il faut donc restreindre son utilisation et en avoir moins besoin, autant que possible.
Mmh. Ça a forcé la main, on peut le dire comme ça. On dit souvent du choc pétrolier, vous l'évoquiez plus tôt, hein, on dit de ce choc pétrolier qu'il a mis fin à la période de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, la période de prospérité d'après-guerre. Est-ce que pour vous, c'est effectivement la fin d'une époque et le début d'une autre?
Absolument, absolument. Ça, c'est un point qui dépasse même le pétrole. C'est toute la politique économique des pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était basée sur le keynésianisme, l'intervention de l'État, l'État-providence dans l'économie, et aussi les matières premières bon marché. Ça, on a tendance à l'oublier. Les matières premières durant les années 50-60 étaient très bon marché. Et ça a aidé donc au fonctionnement d'une économie industrielle développée. Alors, cette économie commençait déjà à s'essouffler à la fin des années 60, pour des raisons non pétrolières, pour des raisons de baisse de rentabilité, de marché moins dynamique qu'auparavant. L'affaire pétrolière a simplement marqué le coup. Elle l'a aggravé et fait en sorte que tout un modèle économique prend fin. Le modèle économique qui a fait la prospérité des années 50-60 se termine durant les années 70. Et on entre donc dans ce qu'on appelle la crise, d'une manière globale, d'une manière un peu indéfinie. La crise qui n'est pas encore résolue, hein. Soyons clairs. Ça, on est dans la phase post-30 glorieuse aujourd'hui même.
Mmh, oui.
On n'a pas encore résolu. Donc c'est vaste, c'est un changement historique dans l'économie et le mode de vie des pays développés.
Oui. Et vous disiez la fin du keynésianisme, hein, c'est ça aussi, c'est que le chômage s'installe à demeure, on tente de s'en sortir et les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. C'est ce qui va nous mener aussi ce choc de 73 aux politiques néolibérales, au courant de conservatisme économique du début des années 80. Là. Il y a un lien avec ça.
Exactement, exactement. Le keynésianisme n'étant plus à la hauteur de la situation, eh ben c'est le libéralisme qui relève la tête.
Mmh.
Il était marginalisé jusque-là. Ben, il redevient la politique économique. Et le libéralisme promeut alors la mondialisation. C'est le début de cette mondialisation que nous connaissons maintenant, c'est cela. C'est le fait que l'industrie étant moins rentable dans les pays industriels, eh ben, on déplace l'industrie, on la délocalise ailleurs. Et c'est le début de la mondialisation.
Oui, dans laquelle nous sommes toujours en ce moment. Puis c'est aussi, on le disait, hein, cette prise de conscience environnementale, parce que là, on va parler de dérèglement climatique dans les années 70, de pénurie d'eau, de gaspillage des ressources, des thèmes qui sont encore très actuels, plus que jamais même. Mon invité, je le rappelle, Samir Saul, il est professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça me fait grand plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter ou rattraper nos émissions. Vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien sur notre application en balado. C'est exclusif, faut-il le rappeler, sur Radio-Canada Audio. Ici Maxime Gauthier. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.